Je suis très heureux d'être avec vous pour partager la parole du Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'intervenir, juste vous dire que vous pouvez certainement imaginer qu'il y a tellement de choses dans notre cœur. Cette vie du Seigneur, elle est tellement intense en nous qu'il y a abondamment de choses à partager. J'espère que je vais être aussi concis qu'il l'a été. Et la semaine dernière, notre frère Denis Bordeneuve a profité de l'occasion qui lui était donnée pour continuer un message qu'il avait initié. Et je vais faire de même ce matin. Il y a environ 2 mois, j'avais commencé un message au milieu de vous et nous allons attaquer la suite. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un petit contrôle pour savoir ce qui est resté dans votre cœur, parce que finalement le contrôle, ça serait aussi pour moi, parce que si vous n'avez pas retenu grand-chose, c'est que j'ai certainement pas été très 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 bon. Alors, tout simplement quand même pour vous recadrer dans le thème de ce message, vous dire quelques éléments. Le titre de ce message était « Pourquoi Dieu agit ?» On va essayer aujourd'hui de faire la deuxième partie et de terminer, ça serait bien. La pensée principale, c'est que souvent dans notre vie de croyants, nous réduisons la soi-disant non-manifestation de la présence et de la puissance de Dieu au simple fait que nous ne le voyons pas à l'œuvre dans nos vies ou dans nos églises. En fait, parfois, parce que Dieu ne semble pas agir comme nous pensons qu'il devrait agir. Voilà, parfois il y a cette question, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu est-il réellement au milieu de nous? C'est parfois des questions. Alors, je voudrais dire quelque chose d'important, j'avais déjà dit, mais j'insisterai pour essayer d'équilibrer comme il faut ce message. Cette question, pourquoi Dieu n'agit pas, elle est quand même importante et fondamentale. Chaque fois que nous avons besoin de nous examiner devant Dieu, comme nous le faisons avant de prendre le repas du Seigneur, mais tous les jours dans notre vie, je crois même que chaque fois que nous prions et que nous nous plaçons devant le Seigneur, je crois que le préambule à chaque fois, c'est un examen personnel. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi il n'intervient pas? Oui, s'il y a un examen important, il faut le faire. Dieu, c'est abondant dans toute la parole, dans maintes et maintes situations, ne peut pas agir, parce qu'il y a des choses qui font obstacle dans notre vie. Mais pour autant, si avec honnêteté devant le Seigneur, si j'examine mon cœur et que je vois qu'il n'y a pas d'entrave à la vie, à l'action de Dieu dans ma vie, je dois faire attention à cette interrogation. Dieu est-il réellement au milieu de moi? Dieu est-il réellement dans ma vie? Vous savez, parfois cette question, elle sous-entend le fait que parce que je me conforme aux voies de Dieu, parce que j'obéis au Seigneur, presque naturellement, il doit agir comme je pense qu'il devrait le faire. Et il y a un petit peu un sentiment de propre justice, si on a le temps, on en reparlera tout à l'heure. Vous savez, il faut être très clair avec le Seigneur. Nous ne pourrons jamais faire Dieu notre débiteur. Il ne nous doit rien. Vous pourriez être l'homme ou la femme les plus pieux de la terre, Dieu ne nous doit rien. Voyez Job, comment Dieu, j'exagère peut-être un peu le trait, mais comment Dieu l'a abandonné, mettez-le entre guillemets, entre les mains de Satan. C'était un homme pieux, il n'y en avait pas deux comme lui sur la terre, si vous relisez dans le chapitre 1er du livre de Job. Attention, ne faisons pas comme le peuple d'Israël. Vous saviez, on avait relu ce texte dans Exode au chapitre 17, ce contexte particulier où le peuple d'Israël, pressé par la soif, s'est posé la question, Dieu est-il réellement au milieu de nous? Vous savez, il y a un grand danger qui guette le croyant, c'est d'être focalisé sur les manifestations de la présence de Dieu. Et ce danger est parfois décuplé par le fait que tous les signes d'une manifestation surnaturelle ne viennent pas de Dieu. Et je vais lire un texte avec vous dans Marc au chapitre 13. « Marc chapitre 13 et au verset 21. Marc chapitre 13 verset 21. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible ? Ne le croyez pas. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes, ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges au point de tromper, même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Verset 23, vous donc, faites attention, je vous ai prévenu. Alors excusez-moi, j'ai lu la version Semeur, vous me regardez dans la version qu'on lit ensemble. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Excusez-moi, la pensée la même, faites attention. Il y a un grand danger. Certains croient que Dieu est au milieu d'eux, car les signes sont évidents, et pourtant, le Seigneur Jésus lui-même nous a prévenus. Ce texte nous montre que même ce qui peut sembler être la manifestation de la présence de Dieu est à prendre avec précaution, car le croyant peut être facilement influencé par toutes ces choses. Nul besoin de le sentir. Nul besoin de le ressentir. Faites attention à vos émotions. Nul besoin de le voir avec nos yeux physiques. Ce qui est important pour nous, mes frères et sœurs, et ça vous pouvez le souligner en rouge, c'est que nous vivions sa présence en nous par la foi. Amen. Alléluia. Lorsque nous avons donné notre cœur à Christ, lorsque nous nous sommes engagés avec lui, que nous sommes passés par les eaux du baptême, que nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et lorsque nous faisons tout dans notre vie avec honnêteté de cœur pour observer tout ce que Jésus nous a prescrit, alors nous pouvons faire notre cette promesse que Jésus nous a faite. Voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, verset 20. Si nous sommes intègres devant le Seigneur, ne nous attardons pas trop à cette question, pourquoi Dieu n'agit pas ? Dieu est-il réellement au milieu de nous ? C'est une question qui est souvent empreinte de pessimisme spirituel, et c'est une question en plus qui est très contagieuse. Mais je voudrais vous encourager, et c'est le thème central de ce message, à prendre la question différemment et à la poser, parce que je trouve que c'est une forme encore plus encourageante de se poser la question, mais pourquoi Dieu agit ? Et pour canaliser un peu ce message, nous avons pris comme canevas, si vous vous souvenez la dernière fois, les trois résurrections que Jésus a opérées. Et la première fois, malgré que j'ai été très bavard, on a quand même réussi à voir le premier mobile de l'action de Dieu pour les hommes. Et je dirais que c'est même le mobile au-dessus de tous les mobiles. Pourquoi Dieu agit ? Parce qu'il nous aime. Vous me direz, c'est simple, on le sait. Vous le savez au début, le jour où vous donnez votre cœur à Christ. Mais sachez-le tout autant, tout au long de votre vie chrétienne. Sur son amour, je me repose. Vous vous rappelez, on a lu cette résurrection du fils unique de la veuve de Naïn, et il est écrit, quand Jésus la vit, il fut ému de compassion. Pourquoi Dieu agit ? Parce qu'il nous aime. La Bible est formelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Le mobile de son action, c'est son amour pour tous les hommes. Alors ce matin, je voudrais pouvoir avancer, voir ce deuxième mobile avec vous. On va lire ensemble dans Luc au chapitre 8, c'est cette deuxième résurrection de la fille de Jaïrus. Luc chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 40. Luc 8, verset 40. Je pourrais résumer ces résurrections et vous donner, mais j'ai envie de les relire avec vous à chaque fois, parce que je crois que c'est des textes qui fortifient nos cœurs, même si nous connaissons ces récits. je crois que c'est bien de fortifier notre foi. Luc, chapitre 8, verset 40, « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. » Verset 43, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Mais qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Mais maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et il dit d'une voix forte, « Enfin, lève-toi !» Et son esprit revint en elle et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Ils ne sont pas beaux ces textes, hein ? Merveilleux. La puissance, l'autorité de Jésus-Christ est encore disponible pour nous aujourd'hui. Oui, le premier de tous les mobiles de l'action de Dieu, pourquoi Dieu agit ? Parce qu'il nous aime. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et qu'est-ce qui est écrit après ? Afin que quiconque croit ait la vie éternelle, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tout accompli. À la croix, Jésus l'a dit, tout est accompli. Et plusieurs paraboles des Écritures nous montrent que tout a été préparé. Ces images de festin, tout a été prêt. Dieu a largement fait sa part. Tout est prêt. Mais sans la foi dans le cœur des hommes, Dieu ne peut pas agir. Il est écrit ceci, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux chapitre 4, verset 2. Il est impressionnant de voir comment Jésus a accompli de nombreux miracles. Au point que parfois, il est dit que même Jésus a guéri tous les malades. Et pourtant, dans d'autres circonstances, Jésus a été empêché d'agir à cause du manque de foi. Il est écrit ceci, « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Matthieu 13, verset 58. Mais, heureusement, dans bien d'autres situations, comme nous l'avons lu pour cette femme atteinte de la perte de sang, dans bien des situations, Jésus a pu dire, ma puissance t'a sauvé, ma puissance t'a guéri. C'est ça qu'a dit Jésus ? Ta foi. Ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Alléluia. Nous le voyons dans ce texte de la résurrection, l'intervention de cette femme atteinte de la perte de sang. Jésus va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvé. Alors je voudrais profiter du témoignage justement de cette femme pour revenir sur un point essentiel, parce que vous savez, sur le domaine de la foi, il y a parfois beaucoup de confusion. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est une confiance totale en Dieu. La foi est une confiance totale en Dieu. Confiance dans sa puissance, confiance dans l'autorité, confiance dans toute l'œuvre et la vie de Jésus-Christ, confiance dans toute sa parole. Confiance absolue en Dieu, c'est ça véritablement la foi. Quand vous voyez cette femme, j'ai noté un verset, puisque ces textes sont aussi retranscrits dans d'autres évangiles, dans Matthieu. Il est dit ceci, quand cette femme s'est approchée, il est écrit, elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle avait cette conviction dans son cœur qu'un tout petit peu, juste si je pouvais toucher son vêtement. Ce matin, qu'as-tu besoin pour toi ? Un mot du Seigneur. Si seulement je puis toucher. Elle avait compris quelle puissance et autorité se dégageait de la vie de Jésus, et un petit peu pour elle suffisait pour bouleverser et changer toute sa vie. Il y a d'autres textes qui nous montrent effectivement cette foi que Jésus a louée. Vous rappelez cette femme qui s'est approchée de Jésus, et puis il a fallu qu'elle joue un petit peu des coudes. Les disciples, ils ne voulaient pas. Même les premières paroles de Jésus, enfin, il y avait de quoi. Et puis, il y a cette histoire de Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux chiens. Vous vous rendez compte de ces paroles ? Et qu'est-ce qu'a dit cette femme ? Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 27, vous connaissez bien aussi l'histoire de ce centenier qui était venu pour la guérison de son serviteur. Qu'est-ce qu'il a dit, ce centenier ? Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus l'a dit, il a dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et il a été guéri. Quand nous réalisons, quand nous comprenons la puissance qui émane de la vie de Jésus-Christ, un petit peu. Et la foi, c'est une confiance absolue en Dieu. Aucune place au doute. Si je crois, c'est un petit peu l'action de cette femme quand elle s'approche de Jésus. Là aussi, il a fallu jouer un petit peu des coudes, il y avait toute la foule qui pressait, mais il y aura une personne qui a touché Jésus d'une manière différente. Et la foi, c'est ça. C'est comme une puissance, une force qui est à disposition pour tous les hommes dans la personne de Jésus-Christ. Et si je la touche, si je touche Jésus par la foi, je reçois. Vous savez, Dieu regarde à la surface de la terre. Et Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, a tout accompli, il a tout préparé. On n'a rien à y rajouter personnellement. Et dès que Dieu voit de la foi dans un cœur, ce matin, à telle place, demain dans ta vie, dis que chaque fois que Dieu voit qu'il y a de la foi, de la conviction, qu'en Dieu tout est possible, Dieu agit. Oh, peut-être pas comme nous le pensons, peut-être pas comme nous l'imaginons, peut-être qu'il n'agira pas comme il l'avait fait la dernière fois, peut-être qu'il n'agira pas dans ma vie comme il agit dans la vie du frère ou de la sœur, qu'importe. J'ai confiance en toi. Ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans, ça prendra 20 ans, peut-être que des chemins particuliers dans ma vie, comme a dit notre frère. Qu'importe, j'ai confiance en toi, Seigneur. Dans le désert, dans l'abondance, quelles que soient les circonstances, je suis attaché à toi. La foi, c'est cela. Dieu a tellement aimé le monde, mais ce salut, il est vain pour tous les hommes qui ne font pas l'acte de foi. C'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te sauve aujourd'hui. Aucune place au doute. Il y a le témoignage dans la parole de Dieu, Abraham, qui a été appelé le père de tous les croyants. Abraham, quel exemple de foi, de confiance absolue. Il savait, vous rappelez cette histoire de, du sacrifice de son fils Isaac. Il est dit dans le livre des Hébreux, mais il croyait que Dieu était même tout puissant pour ressusciter son fils. Il reçoit un ordre de Dieu, il obéit. La foi, la véritable confiance en Dieu. Relisons ensemble Romains 4. Romains 4, s'il vous plaît. Pourquoi Dieu agit? Eh bien, Dieu agit tout simplement en réponse à la foi. Et le témoignage d'Abraham est extraordinaire pour nous. 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut, et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, c'est ça la foi, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu et ayant cette pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Pourquoi Dieu agit? En réponse à la foi. Le Seigneur l'a rappelé encore dans un don spirituel ce matin, depuis tant d'années. Depuis tant d'années que tu entends la voix de Dieu. Peut-être depuis tant d'années que le Seigneur a placé une promesse particulière sur ta vie. Et qu'est-ce que font les années quand nous ne nous saisissons pas et que nous n'ouvrons pas notre cœur? On s'endurcit. Et on devient de plus en plus hermétique à la parole et à l'appel de Dieu. Et moi, je suis bouleversé chaque fois que j'entends le Seigneur nous parler ainsi. Quelle patience! Quelle fidélité dans son amour. En entendant ce don ce matin, je me disais, mais qui c'est l'homme et la femme derrière cette vie à laquelle Dieu s'adressait qui a intercédé à genoux pour cette personne? Et Dieu répond à cet homme ou à cette femme en intercédant encore, en rappelant sans cesse avec fidélité et avec amour. Tant que tu n'ouvres pas ton cœur, tant que tu ne saisis pas par la foi la grâce que Dieu veut te donner, elle est vaine pour toi. Jésus l'a dit au père de cette fille. Il a dit, crois seulement. J'aime ce chant qui dit, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia, pourquoi Dieu agit? Oui, parce qu'il nous aime. Et aussi, il agit en réponse à notre foi. Je vais aller plus loin. On va lire ensemble la troisième résurrection dans Jean au chapitre 11. Je voudrais essayer de conclure ce matin. Jean chapitre 11. C'est bien sûr cette résurrection que nous connaissons bien aussi, la résurrection de Lazare, où nous trouvons ce troisième mobile de l'action de Dieu. Alors, quand j'ai pris dans ce message, on va dire trois mobiles, il faut dire qu'il y en a plein d'autres. Mais chaque fois que vous les analysez dans la parole de Dieu, ils sont automatiquement liés. Je dirais que ces trois mobiles que nous trouvons dans ces trois résurrections sont les trois mobiles principaux de l'action de Dieu et en découlent nombre d'entre eux. Et on va lire juste au verset 38, 11 verset 38, « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je fais une petite parenthèse, c'est la foi saine, c'est pas « j'ai vu, je crois ». Vous vous rappelez cette rencontre avec Thomas? Thomas lui a dit, oui, « tu as cru parce que tu m'as vu. » Heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. C'est ça la foi saine. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les manifestations de surnaturelles, enfin les manifestations de Dieu telles que nous on peut imaginer les concevoir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je continue. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Extraordinaire. Il y a des gens, ils se sont évanouis, c'est sûr. Vous imaginez un peu? Nous, on le lit comme ça. Incroyable. La puissance, l'autorité de Jésus. Alors, où est le mobile de l'action de Dieu dans cette affaire? Alors, je fais peut-être une petite parenthèse parce que par deux fois, Jésus va rencontrer Marthe, va rencontrer Marie. Et elles vont dire, mais si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et ça rejoint un peu toute cette pensée, vous savez, du questionnement dont je vous parlais. Dieu est-il au milieu de nous? Pourquoi Dieu n'agit pas? Et c'est vrai que, voilà, on n'est que des humains et c'est pas pour pointer forcément le doigt sur nos faiblesses. Mais quelque part, c'était intentionnel. C'était intentionnel que Jésus ne soit pas là. Il a tardé à venir intentionnellement. Et si vous relisez avec moi, regardez au verset premier. Au verset premier, Jean 11, « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pourquoi ? Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Il est dit un peu plus loin que Jésus, voilà, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Je vous invite vraiment à relire les contextes de ces versets chez vous, si vous ne les connaissez pas très bien, mais même pour fortifier votre foi. Le troisième grand mobile de l'action de Dieu, pourquoi Dieu agit, et c'est quelque chose qui me hante beaucoup personnellement depuis des années, Dieu œuvre pour sa gloire. Dieu œuvre pour sa gloire. Et je crois même, c'est pour ça que je disais un petit peu le mot hanté, mais il n'est pas très juste, mais ce souci permanent dans mon cœur, je crois que c'est un des plus grands obstacles à l'action de Dieu au milieu des hommes. C'est l'obstination de l'homme à transposer la gloire qui revient à Dieu, à la transposer sur des hommes. L'apôtre Paul l'a dit très clairement que l'homme est plus enclin à adorer la créature que le Créateur. Vous savez, dans Romains chapitre 1er, il dit ceci, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Dans Romains 1, verset 25. C'est ainsi, les hommes sont plus disposés à glorifier les hommes, à glorifier une église, à glorifier une communauté religieuse, à glorifier même un mouvement que Dieu lui-même. Je vous laisse lire un texte, vous le lirez chez vous dans Actes au chapitre 14, où Barnabas et Paul ont été dans une circonstance particulière et on voit automatiquement que les hommes ont cherché à les glorifier à eux et comment, avec beaucoup de difficultés, Paul et Barnabas ont essayé de montrer, de prouver que ce n'était pas de leur propre vie, de leur puissance personnelle, mais que cela venait de Dieu. Souvent, Dieu utilise des gens simples pour que la gloire en revienne incontestablement à Dieu. Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance, cette grande puissance, elle soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, verset 7. Dieu œuvre pour sa gloire. Il ne la partage pas, sa gloire. lorsque Pierre et Jean, vous savez, vont être ces instruments bénis pour ce boiteux de naissance assis à la porte du temple, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Acte 4, verset 13. Oui, Dieu œuvre pour sa gloire. Et parfois, lorsque nous mettons en avant peut-être des personnalités, peut-être lorsque nous mettons en avant peut-être un mouvement plutôt qu'un autre, une église plutôt qu'une autre, soyons très vigilants. Je crois que l'action de Dieu est parfois paralysée par cette prise de position. Vous me direz, mais c'est parfois insidieux dans notre cœur et dans notre vie. Nous devons être constamment pétris, d'œuvrer pour sa gloire. Le maître mot qui devrait régner dans tout ce que nous voulons faire pour Dieu, c'est qu'il croisse et que l'on diminue. Alléluia. Dieu œuvre pour sa gloire. Nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour cela. Tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui dans Colossiens chapitre 1er, verset 15. Et vous savez que parmi toute la création, l'homme a été créé d'une manière particulière. Il a été façonné à l'image de Dieu. Et quand nous regardons tout autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons le ravage que le péché a fait et comment cette image de Dieu a complètement disparu, a été effacée et noircie par l'horreur du péché. Mais en Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible a été restaurée sur la terre. Et comme l'a rappelé notre frère la semaine dernière, quand je suis enfant de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce matin, je crois, le Seigneur nous a rappelé par un don spirituel qu'il voulait que nous marquions la différence dans ce monde. Il nous laisse dans le monde. Il veut que nous soyons ses témoins, il veut que nous portions sa parole, que nous portions à nouveau l'image de Christ dans ce monde. Il nous l'a dit ce matin, je veux que tu sois ma bouche, je veux que tu sois mes mains, je veux que tu sois mes pas. Oui, il est possible tout à nouveau de redécouvrir l'image de Dieu telle que Dieu l'avait voulu au plan originel, si nous laissons Christ vivre dans notre vie, si nous laissons la place, toute la place, à Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit. Oui, Dieu agit parce qu'il nous aime. Dieu agit en réponse à la foi. Et Dieu œuvre pour sa gloire. Il veut transformer vos cœurs. Il veut transformer vos vies. Il veut que tout votre être à sa disposition dans ce monde serve uniquement à célébrer la gloire de son nom. Je dis que nous mettons en danger parfois, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je prie pour que Dieu nous donne l'occasion de parler de la gouvernance de l'Église, de la façon dont on dirige les Églises, mais je crois qu'on met en danger chaque fois des hommes et des femmes. Quand on les met à la tête des congrégations, ou très rapidement, selon bien sûr les succès ou non-succès, la gloire qui doit revenir à Dieu est transposée sur des hommes. Vous savez, j'ai l'occasion de discuter notamment avec des mairies, etc., pour nos besoins de locaux. Et souvent, quand on dit évangélique, vous savez, on fait référence à certaines choses et ils n'ont pas tort. Parce que franchement, on voit certaines choses. C'est Dieu qui doit être glorifié, qu'il croisse et que je diminue. Si vous avez cette disposition dans votre cœur, si vous laissez l'action du Saint-Esprit, Dieu va vous façonner de telle manière à ce que c'est la vie de Christ qui émane de votre vie qui va célébrer la gloire de l'Éternel au milieu de vous. On lit un verset quand même ensemble, 2 Corinthiens 3, verset 18, 2 Corinthiens 3, verset 18, que vous connaissez bien, mais on le relit ensemble. Allez. 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est dans la présence du Seigneur, mes frères et sœurs, que nous sommes transformés en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ceci, 3 verset 18, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous sommes transformés en son image. On s'en rend peut-être pas même forcément compte nous-mêmes. C'est les autres qui le voient. Ceux avec qui je vis, je cohabite, avec mes collègues de travail. Ils voient cette transformation qui s'opère dans ma vie. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Oui, nous l'avons chanté tout à l'heure. Oui, Seigneur, nous voulons que tu brilles, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, c'est le vœu, la prière de nos cœurs. Mais qui est le plus intéressé? Vous croyez que le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, ne veut pas que sa gloire resplendisse? Et comment le peut-il? Sinon avec des hommes et des femmes qui se tiennent dans sa présence, qui lisent sa parole, qui prennent vraiment ce temps au pied du Seigneur, pour que l'action du Saint-Esprit, presque je dirais naturellement, le transforme en l'image, pour que nos paroles deviennent ses paroles à lui, pour que eh bien, nos pas ici-bas sur la terre soient, c'est pas à lui comme s'il était au milieu de nous, ses mains. Cette pitié qu'il a sur toutes les âmes qui se perdent autour de nous. Que Dieu nous donne cette même compassion, cet amour pour les âmes. Oui, pourquoi Dieu agit? Parce qu'il nous aime. Dieu agit en réponse à la foi. Et Dieu, nous l'avons vu dans cette résurrection de Lazare, Dieu œuvre pour sa gloire. Vous savez, si après des temps de grandes bénédictions, qui peut être parfois aussi des pièges parce qu'on s'est habitué au surnaturel et au miraculeux de Dieu dans nos vies. Si parfois Dieu nous fait traverser des déserts, comme dans la vie de Job, nous voulons continuer à espérer en lui. Profiter peut-être de ces temps de désert pour fortifier notre foi, confiance absolue en Dieu. Mais nous ne voulons pas prendre le risque, mes frères et sœurs, retenez au moins ceci. Nous ne voulons pas prendre le risque de penser que Dieu nous aurait abandonnés, si tel n'est pas le cas. Dieu est maître des temps et des circonstances. Vous savez, ne suivons pas l'exemple des amis de Job. Ils se sont trompés, ils ont voulu pointer le péché et la faute. Si Job il était comme ça, c'est bien qu'il avait une faille dans sa vie. L'Éternel sera obligé de dire ceci. L'Éternel s'adressa à Éliphaz de Théman et lui dit, « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis. » Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Qu'est-ce qu'a dit Job? Quelque chose de très simple. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Soyons attentifs à ces questions parfois, que nous lâchons un peu rapidement. Dieu est-il réellement au milieu de nous? Dieu agit-il encore dans ma vie? Méditons la parole de Dieu pour voir quels sont les principes en fait qui font que Dieu agisse. J'aime quand on lit dans Daniel ou quand on voit les prières, les intercessions dans les psaumes de David, il dit souvent mais sauve-moi, pas à cause de ma propre justice, de tous les à cause de ta grande miséricorde. Sauve-moi à cause de ta grande miséricorde, oui, crois seulement, en lui je me confie, il dit aussi dans ce psaume, et je suis secouru, la foi qui reçoit, oui, secours-nous Dieu de notre salut, oh, pas pour notre petite gloire, secours-nous Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, vous savez, il est normal quand il y a quelque chose de difficile sur nos vies, ça peut être du domaine de la santé, du travail. Le réflexe va être de demander au Seigneur, « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi un conjoint. » C'est normal, mais très rapidement. « Seigneur, quel que soit le chemin que tu me feras traverser, je veux puiser constamment dans ton amour. Je veux être dans la foi, dans la confiance absolue en toi. » Et je veux que cette situation que tu permets que je traverse, elles servent à glorifier ton nom. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur. Éternel notre Dieu, ensemble nous voulons te bénir pour ta parole. Nous avons toute la révélation, plus que le besoin que nous avons dans notre vie courante, Seigneur. Merci, merci de nous l'avoir donné. Et je te prie pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions non seulement la méditer, mais aussi bien la comprendre par l'œuvre de ton esprit dans nos vies, et que nous puissions réaliser que ce n'est pas parce que tu n'agis pas comme nous pensons que tu devrais le faire, ou comme tu l'as fait dans d'autres temps, dans le passé, ou tu l'as fait pour des frères et sœurs autour de nous, que tu n'es pas au milieu de nous. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous avons douté de ta présence, même au milieu de nous, dans notre Église, Seigneur. Pardon de tout notre cœur. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voulons vivre ta présence dans nos vies, pas par les signes que nous verrons, mais par la foi. Nous voulons marcher par la foi et non par la vue, Seigneur. C'est ce que nous décidons à l'écoute de ce message encore ce matin. Tu vois nos faiblesses. Seigneur, donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour progresser ensemble. Si une âme ce matin avait besoin d'un acte de foi, donne-lui la force en cet instant de crier à toi pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle soit guérie, restaurée. Oui, combien de fois, Seigneur, ne nous l'as-tu pas rappelé? C'est notre foi qui ouvre la porte à la grâce de Dieu. Combien tu es bon. Oui, ton amour encore nous dépasse et nous confond. Et nous voulons tout simplement te dire merci. Et surtout, donne gloire à ton nom au travers de nos vies, par nos bouches, par nos mains et par nos pieds. Amen.